Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour tout le monde.
C'est notre 18e émission, Didier.
C'est ça.
De l'année.
Eh oui.
Enfin, oui.
Oui,
de
c'est
cette
ça.
Saison.
Oui, oui,
de cette saison. Voilà, et elle sera stratégique cette émission, Didier. Nous allons vous raconter l'histoire d'un héros japonais très inspirant, chères auditrices et auditeurs, un samouraï philosophe dont les écrits servent de base à l'enseignement des arts martiaux encore aujourd'hui, et je dirais pour toujours.
D'accord.
C'est le fameux samouraï Miyamoto Musashi.
Bien.
Et toi Didier, tu vas nous éclairer sur un jeu passionnant et très stratégique et très beau et très sympa à jouer, c'est le Mahjong.
Voilà, c'est ça. On va s'amuser un tout petit peu après.
Oui.
Donc alors, revenons à notre samouraï. Qui est ce fameux samouraï, s'il te plaît? Miyamoto Musashi, pourquoi est-il devenu si célèbre?
Oui, parce qu'il est très célèbre.
Ouais. Hein,
et il est devenu célèbre en Occident grâce à un merveilleux livre d'un très grand écrivain japonais contemporain qui s'appelle Eiji Yoshikawa, qui raconte l'histoire romancée de ce très grand maître des arts martiaux. Donc c'est un très grand roman, deux gros pavés, qui raconte la vie de Miyamoto Musashi, qui a vraiment existé, j'insiste là-dessus.
Bien sûr, voilà. C'est pas qu'une légende.
Ce n'est pas qu'une légende. Donc ce livre s'appelle « La pierre et le sabre ». Alors il y a deux tomes. Le premier s'appelle « La pierre et le sabre
».
C'est le titre, je dirais, générique. Et la deuxième partie s'appelle « La parfaite lumière ». Donc déjà, on est un petit peu dans l'ambiance.
Oui, j'imagine.
Et voilà, c'est nous, en Occident, on a fait connaissance avec Musashi, à travers ce livre.
Okay.
Et bien sûr, il est aussi devenu célèbre auprès des pratiquants des arts martiaux, auprès des enseignants aussi, grâce à ses propres écrits, à lui.
Donc,
parce qu'il a écrit des livres.
Ok, donc ça veut dire qu'il a vraiment existé.
Je veux en savoir
plus, s'il te plaît.
Alors, je vais donc vous raconter qui était véritablement ce Miyamoto Musashi avant de devenir un mythe, puis un héros littéraire et cinématographique, sans oublier les jeux, etc., les mangas.
Ah ouais, d'accord.
Bien sûr.
Okay.
Miyamoto Musashi était l'un des samouraïs les plus célèbres de l'histoire du Japon et il est reconnu pour sa maîtrise inégalée du sabre et son approche philosophique du combat. Alors, il incarne toujours l'idéal du bushi, le guerrier japonais,
bien sûr,
qui allie les compétences martiales, la discipline intellectuelle et la recherche spirituelle, la voie du guerrier, le bushido. Et son œuvre la plus célèbre, ça s'appelle le Gorin no Cho, en français, le traité des cinq roues, ou le livre des cinq anneaux. Ça veut dire la même chose, Gorin no Cho. On peut le traduire de deux façons différentes, mais on trouve le livre sous le mot, en français, sous le nom traité des cinq roues.
D'accord.
Et ce livre reste une référence incontournable dans les arts martiaux et la stratégie, et on le trouve environ pour 5 euros, dans toutes les bonnes librairies.
Ça va, on peut investir ça même après les fêtes.
Oui, je pense, et c'est tout à fait intéressant.
Okay.
Alors, Musashi est né en 1584 dans le village de Miyamoto. Voilà pourquoi il s'appelle Miyamoto. Et c'était un petit village de montagne situé dans l'actuelle province de Okayama, dans la grande île de Honshu. Et l'île principale du Japon. Alors son vrai nom était Shinmen Benosuke et il s'est fait aussi appeler Taseko durant sa jeunesse. Voilà, il est connu sous plusieurs noms, un petit peu comme Okusai si vous vous rappelez tout le monde. Alors il appartenait à une famille de samouraïs modestes et son père était un maître d'armes spécialisé dans le maniement de la lance et du sabre.
D'accord, ça a dû aider quand même.
Ça l'a aidé.
On comprend donc pourquoi il a pu devenir un spécialiste des arts martiaux. Après, comment il s'est fait connaître, justement?
Eh bien, ça a commencé à 7 ans. Alors, après la mort, alors là, l'histoire ne tranche pas là-dessus.
Ouais.
C'est après la mort ou l'abandon de son père, qui aurait été jaloux de ses dons. Les sources varient. Musashi a été élevé par un oncle moine.
Oui.
Et très jeune, il montrait déjà une grande aptitude pour le combat, si bien qu'à l'âge de 13 ans, et ça a commencé jeune quand même, en 1596, il va avoir son premier duel contre un fameux, un autre samouraï.
Ouais.
Lui, il n'était pas encore samouraï à 13 ans.
À 13 ans,
qui s'appelait Harima Kihei. Mm-hmm. Donc c'était un maître d'armes, ce Harima Kihei, d'accord, de l'école Shinto Ryu. Mm-hmm. Et il va le vaincre. Et quand on dit il va le vaincre, c'est qu'il va le tuer.
Et j'imaginais bien ça comme
c'est
ça.
C'est la voie du sabre, la voie de la vérité.
Le duel, ça se terminait
voilà,
comme ça.
Ça se termine comme ça. Mm-hmm. Et à 16 ans, en 1600, il va participer à la fameuse bataille de Sekigahara contre le futur dernier shogun, le fameux shogun Tokugawa. Mmh. Hein, enfin, la dernière dynastie, en tout cas. Et il va faire partie du clan des perdants. Il ne faisait pas partie des Tokugawa. Il faisait partie de l'autre shogun qui a perdu.
Ouais.
Et il sera donc gravement blessé, mais va survivre. Et il va se retrouver Ronin.
Eh oui, bien sûr.
Le seigneur sans maître. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va sillonner le Japon, comme le faisaient les Ronin, pour se trouver un maître. Mais lui, c'était pas pour se trouver un maître. C'était pour se perfectionner en participant à des duels avec un sabre de bois. Très important, ça, dans sa vie à lui. Un sabre de bois qu'on appelle le Boken. Il se battait avec, le plus souvent avec un sabre de bois, contrairement à ses adversaires qui avaient des sabres avec des lames
en acier. J'imagine bien acérées. Mais alors là, du coup, comment il pouvait gagner avec un sabre de bois, Corinne?
Il avait une excellente technique,
Didier
Miyamoto Musashi. On lui a attribué plus de 60 victoires en duel, mais le plus spectaculaire a été son combat contre la totalité des élèves de l'école. Il ne les a pas tous tués, je crois la totalité des élèves de l'école d'escrime Yoshioka, qui a vraiment existé. Il aurait quand même anéanti plus de 70
tout
disciples.
Même.
Voilà, et c'est lors de cet affrontement qu'il va utiliser la méthode. Là, il n'avait pas son sabre, son boken. Il va utiliser une méthode qui l'a, je dirais, rendu célèbre aussi. C'est la méthode des deux sabres. Et il va développer cette méthode. Alors, c'est un katana, et donc un long sabre,
d'accord,
et un plus court qu'on appelle le wasikashi.
Oh, en même temps, ils étaient 70.
Il avait bien besoin de sabres au moins,
de ça.
Mais il s'en est sorti. Et c'est une histoire réelle.
Alors, il a donc, on le voit bien, pas toujours combattu avec des sabres en bois, mais alors pourquoi il fait ce choix en fait?
Mais il a souvent utilisé les boken dans les duels, même contre des adversaires armés de véritables lames, et ce choix lui permettait de démontrer sa maîtrise et sa stratégie unique. Et puis le boken, ça coûtait pas cher, c'était rapide, c'était léger, donc rapide. Et Musashi était aussi un grand stratège et il exploitait l'effet de surprise. Voilà, il voulait désorienter ses adversaires pour les dominer.
Bien sûr.
C'est avec un boken qu'il a vaincu en 1612 son plus grand adversaire, le célèbre démon de l'Ouest, Sasaki Kojiro. Et Musashi aurait sculpté un boken à partir d'une rame de bateau peu avant le combat. Et ce choix stratégique a contribué à sa victoire. Parce qu'en fait, Kojiro, il a été surpassé par la rapidité et la ruse Musashi. Alors, ce duel s'était déroulé, au lever du soleil sur une plage de l'île de Gan Ryujima. C'est une petite île située dans le détroit entre Honshu et Kyushu, les deux îles, grandes îles du Japon.
D'accord. Et alors, Kojiro était lui aussi un grand maître du sabre?
Oui, il était connu pour sa technique appelée le retournement de l'hirondelle. Une attaque rapide et imprévisible.
D'accord.
Et donc en fait, ce défi représentait, avec Kojiro, représentait c'était les deux plus grands maîtres de sabre de l'époque. C'était un défi incroyable. Et ils avaient bien sûr des styles et des personnalités très différentes. Avec Kojiro d'un côté, méticuleux, élégant, orgueilleux. Et Musashi, plus rustique, imprévisible et stratégique. Voilà, et donc Musashi, pour ce duel, il arrivait en retard et ça a déstabilisé Kojiro. Donc Kojiro a tiré son sabre immédiatement pour faire son fameux retournement d'hirondelle, mais Musashi va utiliser son boken encore plus rapidement et il va le tuer avec un coup sur la tête.
D'accord.
Voilà, et donc ce duel, ça va consacrer Musashi comme un combattant légendaire. Et quant à l'île de Ganryujima, elle est devenue un site historique et touristique. On peut voir, il y a même un monument qui rappelle le duel.
D'accord.
Bon, moi je vous propose une petite pause musicale, Didier. On a choisi Blue Eye Samurai. C'est une série animée sur Netflix, c'est très beau, je vous recommande. Enfin, on vous recommande.
D'accord.
On écoute What Was.
Alors, c'est parti.
To float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made? paid for, what was I made for? 'Cause
ça, c'était assez doux quand même. Hein.
Oui, c'était bah, après quand même un petit peu de violence.
Voilà, c'est
dire,
ça. Hein. Bon, alors, du coup, vous êtes toujours avec nous sur Asialogie, Radio Alpa, et moi, je voudrais revenir sur la philosophie. Quelle était la philosophie de Musashi, en fait, s'il te plaît?
Alors, Corinne. Musashi considérait le duel comme une épreuve physique et psychologique. Et
d'accord.
Il mettait l'accent sur l'adaptabilité, la concentration, l'observation. Et c'est les principes qu'il explique dans son fameux livre, Le Traité des Cinq Roues,
d'accord.
qu'il a écrit en 1645, peu avant sa mort.
Mmh.
Alors, ce livre est divisé en 5 chapitres.
Oui.
qui correspond à des éléments fondamentaux du bouddhisme
oui.
ésotérique japonais, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Donc, bien sûr, il parle de la terre,
oui.
qui représente la persévérance et la discipline dans la voie du sabre. C'est la maîtrise de soi, la terre.
Mm-hmm.
L'eau, alors ça, c'était Bruce Lee qui nous en avait parlé,
c'est ça.
Tu te souviens ?
Ah oui.
Hein, c'est « Be water, my friend hein. ». C'est l'eau, c'est la fluidité et
c'est
l'adaptabilité. Voilà, on doit s'adapter,
oui.
sinon on meurt.
Et voilà.
Il parle du feu, hein, c'est la stratégie et l'intensité du combat.
Mmh.
Le vent, ben là, c'est un peu comme l'eau, hein, c'est
oui,
l'objectif,
c'est, ça.
C'est d'apprendre de ses adversaires. Il mmh. faut être flexible, encore une fois.
Mmh.
Et puis il parle du vide que l'on doit
ouais.
faire en soi, c'est la quête spirituelle et l'importance
ah, okay.
du détachement et pour avoir l'état de maîtrise parfaite.
Mmh.
Voilà comment on gagne un combat. Alors, en résumé, je dirais ce livre, c'est un guide donc,
mmh.
sur l'art du combat et la stratégie,
d'accord.
mais aussi une réflexion sur la vie. Le développement personnel et la maîtrise de soi.
Alors, je pense qu'il doit être encore beaucoup lu, alors, j'imagine.
Mais il est beaucoup lu, on le trouve partout.
Okay,
si tu vas dans les librairies Mancelles,
il est
en rayon.
N'étant pas un spécialiste des arts martiaux, c'est pour ça que je suis passé à côté.
Mais
oui. alors, du coup, qu'est-ce qu'il a fait après ce duel, justement, avec Kojiro ?
Donc, Kojiro est mort, hein, ne l'oublions
oui.
pas.
Lui,
donc,
il a fait quoi ?
Il s'est un petit peu mis à l'écart. Hein, il a été un artiste accompli, hein, bah, comme tous les samouraïs, ils avaient plus d'une corde à leur arc,
c'est
si on peut dire.
Oui.
Et, parce qu'ils étaient bons à l'arc aussi. Hein. Et à la fin de sa vie, bah, il va se consacrer avec succès à la peinture, à la calligraphie,
ah, oui.
à la sculpture, tout à fait. Et ses œuvres donnaient une vision zen de la vie, hein, avec recherchant la simplicité et l'harmonie.
D'accord.
Et il a vécu, bien sûr, dans la sobriété, souvent dans des grottes ou des temples.
Mm-hmm.
Donc, il est mort en 1645 et son influence reste immense, non seulement dans les arts martiaux, mais aussi dans la culture populaire japonaise,
oui.
Dans de nombreux films, mangas, et dans La pierre et le sabre, bien sûr, dont je vous ai parlé au début.
D'accord.
Voilà.
Voilà, du coup, comme ça a l'air d'être un livre important,
oui.
quelques mots, s'il te plaît, sur ce livre, La pierre
oui.
et le sabre.
Alors, je vous recommande vraiment de le lire, c'est
ouais.
passionnant, ça
okay.
n'en met pas une minute et on ne le lâche pas.
Mm-hmm.
Et c'est un roman qui a été écrit en 1935 et il suit la jeunesse et l'évolution spirituelle et physique et tout hein, de Miyamoto mm-hmm. Musashi, qui cherche à devenir donc, le plus grand samouraï du Japon. Alors, l'histoire commence en 600 après la fameuse bataille de Sekigahara, où Takezo, le jeune guerrier fougueux, a failli mourir, je
oui.
le rappelle. Et puis, il va être sauvé là par un moine zen qui s'appelle Takuan.
Oui.
Et Takezo, qui va devenir Miyamoto Musashi, va découvrir qu'il doit dépasser son esprit violent pour devenir un véritable guerrier.
Mmh.
Alors, il va tomber aussi amoureux
ah,
et il va
parlé,
être tiraillé. Il va être tiraillé entre l'amour et la voix.
Eh oui.
Alors, c'est un roman passionnant, je vous le recommande.
Mmh.
C'est un roman qui rend finalement la philosophie de Miyamoto Musashi beaucoup plus accessible.
D'accord.
Alors, il faut savoir que Musashi a aussi inspiré le cinéma avec
j'imagine.
La fameuse trilogie qui s'appelle Samouraï de Hiroshi Inagaki. Ça date de 1954.
Ah oui, c'est pour ça que je suis passé à côté.
1954, ah oui.
D'accord.
Et puis, il a été, je dirais, en cours, on ne pouvait plus le trouver, introuvable en DVD.
Ouais.
Il est ressorti là récemment, il est même passé au cinéaste il y a 2 ans.
D'accord.
Et c'est avec le fameux acteur qui est quand même très connu, qui s'appelle Toshiro Mifune, dans le rôle de Musashi. D'accord. Voilà, donc là, moi, je vous emmène. Moi, c'est moi qui ai choisi la pause du musical, Didier, j'ai insisté, c'est vrai, tu m'as laissé faire. On va écouter Wonho, c'est What Would You Do? Oui. Et Wonho, il sera au festival de Seolal à Lille,
voilà pourquoi.
Le 18 janvier.
Et j'en connais qui vont aller voir ça.
C'est vrai.
Ok, très bien.
Bon, on écoute Wonho.
On en reparle. You're the living death of me. The darkest corner of a dream. I'm in pieces with my eyes closed. And I'm in pieces when the lights go down. Your shadow standing next to me. The ghost of what you used to be. You strip me down to skin and bones. Then to my heart and made a stone. Live, sleep, think, breathe you. At least I used to. What would you do if you were me and I was you? If I just put your heart in your stomach, then tore you apart like it's nothing. What would you say if I treated you? Of all these politics, yeah, no. So pretty when you talk your shit, yeah. We pushed you but the circuit broke. Guess you love me then you hate me so. I eat, live, sleep, think, breathe you. Then you broke my heart in two. After all you put me through, we still got no clue. What would you do?
C'était Wonho,
oui.
Qui sera donc à Seolal
le
18 janvier,
à
nuit de la K-pop, à découvrir, oui, allez, oui. Peut-être qu'Asialogy ira faire un reportage là-bas.
Qui sait. Quel moyen.
Oh. Bon, en attendant, Didier, d'aller à Seolal très bientôt, le 18 janvier, ça va venir vite. Explique-nous ce qu'est ce jeu merveilleux, le Mahjong.
Alors, le Mahjong, c'est un jeu de société. Ça, tout le monde, je pense, le sait à peu près. Traditionnel chinois, né au XVIIe siècle et qui a conquis...
Assez récent, donc.
Je pensais que c'était plus vieux que ça. Le monde et aussi nos téléphones.
Ça, c'est vrai.
Forcément. Il se joue donc avec 144 tuiles gravées de motifs spécifiques et il combine stratégie, mémoire, habileté. Il a une origine populaire, en fait. Il aurait évolué à partir d'anciens jeux de cartes ou dominos.
Et nous revoilà avec les jeux de cartes. Faut qu'on fasse une émission sur les jeux de cartes.
Va falloir.
Oui,
donc le Mahjong est bien plus simple. C'est bien plus qu'un simple jeu. En fait, il est ancré dans la culture asiatique. Il a acquis une signification symbolique et sociale importante, non seulement donc en Chine, mais aussi dans d'autres régions du monde.
Alors, que symbolise le Mahjong, Didier ?
Alors, ça symbolise. C'est comme une allégorie de la vie, en fait, mêlant chance, stratégie et adaptation. Ces éléments, les tuiles, les règles et la dynamique de jeu reflètent des concepts culturels profondément enracinés dans la pensée asiatique. Bon, il y a des tuiles d'honneur symbolisant les quatre vents des quatre points cardinaux qui rappellent la relation entre les humains et l'univers. Et trois dragons, le rouge, le vert et le blanc qui représentent des idéaux confucéens et bouddhistes. Le dragon rouge évoque le succès ou la vertu. Le dragon vert, lui, symbolise la croissance, l'harmonie et la vitalité. Et le dragon blanc, il est associé à la pureté ou à l'équilibre spirituel.
D'accord.
Ouais. Il y a les tuiles donc, numériques, les cercles, les bambous et les caractères qui représentent des aspects pratiques de la vie quotidienne à l'époque impériale, comme le commerce, la nature, la société.
Ah, bah oui, le bambou, oui.
Voilà, sans oublier les tuiles bonus, très poétiques, celles des fleurs ou des saisons.
C'est vrai que c'est très beau, un jeu de Mahjong.
C'est déjà un bel objet.
Oui, c'est déjà un bel objet, tout à fait. Alors, quand joue-t-on au Mahjong, Didier ? Il y a des moments pour ça ?
Bah oui, le Mahjong, c'est un jeu de communauté et de famille. Donc, on joue au Mahjong lors de réunions familiales importantes, comme au Nouvel An chinois, les mariages et même pendant les veillées funéraires pour honorer les ancêtres.
Oui, c'est un lien, quoi.
Oui, ça rassemble les générations, encourage la communication entre les jeunes, les anciens, tout en servant de moyen de transmission des traditions. Il est aussi un symbole de statut social. Jouer au Mahjong a été considéré comme un passe-temps des classes aisées. Particulièrement durant la dynastie Qing, qui était, c'était un signe de raffinement et d'intelligence. Bon, plus tard, le Mahjong s'est démocratisé, mais ça reste toujours un marqueur culturel assez fort. Quand même.
Mais que veut dire Mahjong, Didier ?
Alors, le mot Mahjong,
ça a sûrement une signification.
Littéralement, moineau. Il fait référence au bruit des tuiles lorsqu'elles sont mélangées, ce qui rappelle le gazouillement des moineaux.
Mais c'est pas faux, ça, je trouve.
Ouais. Moi, je suis pas... Bon,
ben voilà. Ça cliquette gentiment,
ouais, c'est ça.
Ça fait un joli bruit.
Il faut que je réécoute les moineaux, c'est ce que je te disais. Les origines du terme, donc, c'est ma, qui signifie chanvre, qui fait penser aux choses simples ou ordinaires, et jiang, qui veut dire moineau ou petit oiseau, ce qui symbolise la vivacité et le plaisir simple.
Il y a toujours un sens profond aux choses. Hein.
Voilà, c'est ça. Donc, alors,
en quoi le Mahjong représente la vie ? Parce que du coup, il y a plein d'éléments qui nous font penser à tout ce dont on a, ce qu'on aborde dans nos émissions.
Alors, il est lié au concept de chance, de karma et de destin qui occupe une place centrale dans la pensée chinoise, en fait. Il y a beaucoup de croyances spirituelles autour de ce jeu, en effet. Les joueurs croient souvent que la disposition des tuiles est influencée par le destin ou les énergies environnantes. Ils ont donc des rituels pour frapper doucement les tuiles ou réciter des phrases porte-bonheur. Certains joueurs portent des vêtements porte-bonheur ou des gris-gris pour attirer la chance.
Et oui.
Comme les footballeurs, ils ont leurs chaussettes et leurs culottes préférées. Qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça.
Mais ça, je
si ça marche.
Pas.
Le Mahjong est donc vu comme une métaphore de la vie, car chaque partie représente une nouvelle opportunité. Les bons joueurs savent que la chance tourne et que la clé du succès est d'apprendre à s'adapter, anticiper et maximiser ses ressources, en fait.
Alors, le Mahjong est donc un outil d'apprentissage culturel, Didier ?
Oui. Il a un rôle éducatif, il représente des concepts importants de la culture asiatique, l'harmonie, la patience, la stratégie et l'équilibre entre chance et compétence.
Ah oui, toujours.
Voilà. Mmh. En jouant au Mahjong, les jeunes apprennent les nombres, le calcul à travers le comptage des points, les règles sociales comme la politesse, la patience, le respect des adversaires et l'importance de l'anticipation et de la prise de décision.
Donc c'est très pédagogique. Alors, comment joue-t-on ? Au Mahjong, de quoi on a besoin,
alors,
Didier ?
Bon, on a besoin d'une table et des chaises. Ça, jusque-là, ça va. Des 144 tuiles, comme on l'a dit. On peut jouer donc de 2 à 4 joueurs. Il faut aussi un dé pour déterminer l'ordre des joueurs et de quoi noter des points, bien sûr.
Le but, c'est simple.
C'est ça, de former des combinaisons en collectant et en organisant ces tuiles. L'objectif final est d'obtenir une main complète appelée Mahjong, un peu comme au Rami.
C'est simple.
Pour les joueurs de Rami, voilà. On mélange d'abord les tuiles face cachée sur la table. Chaque joueur reçoit 13 tuiles. Puis, à tour de rôle, ils piochent une tuile ou prennent une tuile jetée par un adversaire pour compléter une combinaison. Ensuite, ils défaussent une tuile inutile. Si un joueur complète sa main, il annonce Mahjong. Et la partie s'arrête et on compte les points. Les règles du Mahjong sont plutôt simples.
Trouve, hein.
À noter qu'il existe de nombreuses variantes hein, selon les pays, comme toujours. Hein, c'est des jeux qui sont avec des règles un petit peu qui diffèrent.
Alors, est-ce qu'on joue encore beaucoup au Mahjong aujourd'hui ?
Et oui, car ça a été donc très popularisé dans le monde entier au XXe siècle, notamment grâce aux expatriés chinois qui voyagent avec le Mahjong comme un moyen de préserver une connexion avec leurs racines. Il faut savoir aussi qu'au début du XXe siècle, le Mahjong a été adopté par les femmes un peu partout pour revendiquer leur espace dans des contextes sociaux dominés par les hommes, on s'en souvient. Petit à petit, donc, le Mahjong est devenu comme une icône culturelle à travers des adaptations comme le Mahjong solitaire, puis des jeux en ligne qu'on connaît. Il apparaît souvent dans des films, des séries
oui,
et même des œuvres d'art.
On voit beaucoup.
Ouais, c'est populaire.
Beaucoup de, souvent des hommes, hein, quand même.
Même si on n'a pas joué, on connaît.
Oui, on connaît.
C'est
oui.
ça. Car au-delà de son rôle ludique, c'est un très beau jeu visuellement. Voilà, comme on l'a dit, il est considéré comme une pratique méditative pour certains, puis permettant de se concentrer sur l'instant présent et se calmer l'esprit à la manière du zen.
D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des clubs en France, Didier ?
Alors, oui, ils ont proliféré en France ces dernières années. Il y a un engouement croissant pour le jeu, avec des communautés de passionnés qui se réunissent régulièrement pour pratiquer et puis partager des stratégies, échanger des astuces. C'est très convivial. Malheureusement, il n'y a pas de club au Mans. Alors,
ça c'est
reste à créer et puis rejoindre la Golden League du Mahjong.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des tournois internationaux, championnats.
Je ne suis pas assez documenté, mais il y en a
Comme le Go, il faudrait qu'on en parle et qu'on l'invite d'ailleurs. Comment il s'appelle ? Il faudra qu'on recherche ça.
Je ne peux pas t'aider.
Il y a un club de Go qui est rue du Chêne Vert. C'est tous les mercredis à 18h.
On va faire une section
pub.
Une section Mahjong pour qu'il y ait aussi
bien.
Des joueurs qui se développent.
Voilà.
Mais moi, ça m'a donné envie.
Créer la section Mahjong, Didier.
Non, j'ai déjà d'autres choses à faire. Mais par contre, se remettre dans le jeu du Mahjong, oui, pourquoi pas. Et le transmettre aux enfants, aux gens qui nous entourent.
Bon, Asialogie, c'est fini, Didier.
C'est ça.
Hein.
Exactement.
Bon, chers amis, on vous retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter le samedi matin 9h30.
Voilà.
Et bien sûr, en podcast sur radioalpa.com. Donc, rendez-vous jeudi prochain, toujours sur Radio Alpa, cette fois 107.3 FM Le Mans. Salut.
Au revoir. Donc, écoutez ça. Samedi, on nous écoute et après, on fait une petite partie de Mahjong.
Ouais,
à la semaine prochaine.
Ça, bien.
C'est ça.
Salut.
Bye. Thank you.